Radio Kapi.
À la une, le lancement hier des travaux de réhabilitation de la route Beni-Mangina dans le Nord Kivu. Ils seront réalisés par la société de service Viumbira. Cette route va faciliter le mouvement des personnes et des marchandises dans cette zone, assure le gouverneur du Nord Kivu. Plusieurs quartiers de la commune Lubumbashi dans le Noir depuis deux jours. En cause, un court-circuit survenu lors d'une tentative de vol des câbles électriques par des inciviques. En effet, les câbles en cuivre sont souvent volés dans le Haut-Katanga et vendus ensuite dans les usines de fonderie, rapportent des sources sur place. L'invité de ce matin, Job Kambale Toumaini, porte-parole du groupe de réflexion dénommé « Les chômeurs du Nord Kivu ». Après analyse et réflexion, ce groupe émet son point de vue par rapport à la grève des enseignants qui oblige les enfants à rester à la maison. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Les travaux de réhabilitation de la route Beni-Mangina ont été lancés hier sur une longueur d'environ 30 km. Ces travaux seront réalisés par la société de service Viumbira. Pour le gouverneur du Nord Kivu, présent au lancement, cette route va faciliter le déplacement des personnes et le transport des marchandises dans cette zone. Il a également vanté l'importance sécuritaire de cette voie. Écoutez plutôt le lieutenant général Constant Dima dans ses propos recueillis par Guylaine Kassassia.
Depuis que nous sommes en fonction au mois de mai, je ne cesse de dire que nous sommes gouverneurs à part entière aussi et que nous sommes aussi commandants des opérations. À ce titre, la province doit vivre et tous les projets de la province ne doivent pas s'arrêter. Et aussi, en ma qualité de commandant des opérations, raison pour laquelle j'ai établi mon quartier général ici. Et je viens ici souvent pour suivre, conduire les opérations sur le terrain. Voyez, cette route, c'est une route d'intérêt capital pour nous. Parce qu'il va nous faciliter la fluidité donc, des trafics sur cette route, donc d'ici Beni-Mangina. Et aussi, ça va nous faciliter aussi, nous, comme forces armées de la République démocratique du Congo, d'utiliser pour le besoin stratégique des opérations. Donc, à ces deux titres, croyez-moi, si je suis aujourd'hui dans cette casquette en tenue de terrain, c'est pour appuyer le développement de la province, pour faire vivre la province et aussi les infrastructures en ont besoin.
Entre-temps, au Maniema, le directeur général par intérim de FONER, Fonds National d'Entretien Routier, séjourne à Kindu. Objectif de sa mission, évaluer le niveau d'exécution des travaux d'entretien des routes dans cette province. Lors d'une audience lui accordée par le gouverneur par intérim, Georgine Selemani s'est félicitée de l'augmentation de la mobilisation des recettes grâce à l'encadrement de l'inspection générale des finances. Georgine Selemani Tulia, DG intérimaire de FONER, explique au micro de Florence Kizalunga.
Dans le cadre de l'entretien de route, nous avons discuté du programme d'entretien de l'année passée, à quelle hauteur nous avions financé et à quelle hauteur il y a eu le taux d'exécution par les offices. Et cette année, nous lui avons aussi présenté un peu le programme d'entretien routier de 2021, jusqu'où nous en sommes. Et les deux mois qui nous restent, nous avons, en tant que le FONER, nos mobilisations, nos recettes ont augmenté grâce à l'encadrement de l'IGF. Et nous avons rappelé un peu au gouverneur, s'il a quelques besoins, nous pouvons intégrer ça dans le programme de 2021. Du côté de la voirie urbaine, la province du Maniema a bénéficié de plus ou moins 550 000 dollars, qui a permis à ce que nous puissions financer 22 projets. Dans ces 22 projets, il y avait 16 projets pour des routes en terre et 6 projets pour des routes revêtues. Mais en ce qui concerne les routes d'intérêt national, là, les taux d'exécution n'étaient pas assez avancés. Mais cette année, le taux d'exécution, nous sommes déjà à plus ou moins 50%. Et à mon retour, je vais encore me battre à ce que le taux puisse augmenter, surtout pour les routes d'intérêt national, parce qu'économiquement, nous en avons besoin pour le bien-être de la population du Maniema.
Province du Kwilu, un conflit foncier datant de plusieurs mois entre deux villages cause l'insécurité dans la zone. Il s'agit des villages Ikoubi 1 et Ikoubi 2, situés dans le territoire de Bulungu. L'alerte est du député provincial Adlar Kiebiboy. Ce dernier signale des morts enterrés dans la forêt et plusieurs maisons du village Ikoubi 1 incendiées par l'autre camp. Plus ce détail avec Irène Mboma.
Le député provincial Adlar Kiebiboy s'est dit très préoccupé par ce conflit foncier qui ne fait que
persister entre les villages Ikoubi 1 et Ikoubi 2 situés dans les groupements de même nom en territoire de Bulungu. À l'en croire, ces conflits produisent plusieurs conséquences néfastes, notamment d'abord la perte en vie humaine et ensuite l'incendie de plusieurs maisons mercredi dernier à Ikoubi 1.
Pour le moment, les groupes là de Ikoubi 2 sont venus une fois de plus brûler des maisons à Ikoubi. À 5h du matin, les gens étaient dans des maisons. On a saccagé, on a brûlé des maisons. Or, autrefois, il y a une mort d'homme. On avait tué, c'était au mois d'août, et ce n'est pas fini. Jusqu'à présent, la situation persiste. C'est déjà une insécurité.
L'élite de Bulungu craint pour la sécurité des paisibles citoyens et appelle les responsables des entités de ces coins à prendre toutes les dispositions utiles pour protéger la population.
J'attire l'attention des chefs de groupement, des chefs de village, des chefs de secteur, de l'administrateur du territoire, de s'impliquer, de voir les intérêts de la population, de protéger la population, de sécuriser la population contre les droits.
Joint à ce sujet, l'administrateur du territoire de Bulungu, Bernard Mwanki, a promis de réagir ultérieurement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Rendons-nous à Goma. La Cour d'appel a tenu une audience solennelle hier pour marquer la rentrée judiciaire exercice 2021-2022. Le premier président de cette juridiction indique qu'il était question notamment d'attirer l'attention des magistrats, des juges et des avocats sur le fonctionnement des juridictions militaires par rapport à l'état de siège. Nicolas Twindimbadi Manana, premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, explique au micro de Mathieu Ilunga.
Cette rentrée concerne particulièrement les tribunaux civils. Et donc, à partir de maintenant, toutes les juridictions, commençant par la Cour d'appel du Nord Kivu jusqu'au tribunal de paix, les activités ont effectivement reprises en matière civile, sociale et autres. L'état de siège ne vient pas transformer les choses. Sauf que, en ce qui concerne les compétences en matière répressive, celles-ci sont déférées devant les juridictions militaires. Qui reste, il faut le dire, les juridictions de l'ordre judiciaire au même titre que les juridictions civiles. Donc, c'est la même mission qui continue, sauf qu'une partie des attributions a été déférée devant les juridictions militaires. Il s'agit particulièrement des attributions en matière pénale. Monsieur le magistrat, je vous demande de vous acquitter dignement et honorablement de vos devoirs, de respecter votre serment qui n'est autre que de respecter la Constitution et les lois de la République. Donc je vous appelle à rendre justice, une justice qui soit utile à notre population. Une justice qui amène la paix et non les conflits. C'est-à-dire garantir les droits et libertés des citoyens à travers les décisions de justice. Donc nous restons dans cette attribution traditionnelle.
Au Sud Kivu, signalons la remise officielle hier du projet de renforcement de la sécurité à la prison urbaine d'Uvira. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la prison centrale Mulungé en présence des autorités civiles, judiciaires, la société civile et la MONUSCO. Les travaux de ce projet ont été financés par la section de l'administration pénitentiaire Correction Unit de la MONUSCO à hauteur de 10 000 dollars américains et exécutés par CDJP, la Commission diocésaine Justice et Paix d'Uvira, témoin de l'événement Fiston Ngoma Mayabala.
Ces travaux ont consisté en l'installation d'un système d'éclairage solaire dans tous les dortoirs et les bureaux de l'administration pénitentiaire, l'installation des projecteurs pouvant faciliter la surveillance nocturne, la pose des concertinas, ainsi que la réhabilitation des murs des clôtures intérieures et extérieures. La présidente de la commission diocésaine Justice EP en a profité pour sensibiliser les détenus sur les violences basées sur les genres et la COVID-19 avant de remettre un don d'intra constitué de thermoflash et des dispositifs de lavage de mains. Un projet que le maire de la ville d'Uvira, Kiza Mwato, n'a pas manqué d'apprécier.
Pour la CDJP, nous avons vu que vraiment ça a été très bien fait. Et nous attendons aussi pour Kadi qui a commencé le projet de la boulangerie et bientôt aussi un projet de la pêcherie pour les prisonniers. Si c'est bien fait, ça va redorer l'image de la crédibilité, de la confiance pour les ONG locales.
De son côté, le chef du sous-bureau de la MONUSCO Uvira, Robert Koyou, a salué la collaboration et l'engagement des autorités locales, provinciales et nationales pour l'amélioration de la sécurité de manière générale dans les prisons et cachots. La prison urbaine d'Uvira regorge plus de 1000 détenus, loin de sa capacité d'accueil qui est de 150 personnes. Le directeur de cette prison, Christian Mokeloa, a reconnu que plusieurs centaines d'éléments issus des groupes armés hébergés dans ce milieu carcéral ont souvent fait souffrir la géole Mulungé d'une fragilité chronique. D'Uvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Restons dans le territoire d'Uvira au sud Kivu pour signaler que les FARDC renforcent leur position à Kazimu et Kisanga et sur l'axe Rutemba-Muniwema, ces deux axes routiers situés respectivement sur les moyens plateaux et sur la route nationale numéro 5 ont été cités comme les points les plus insécurisés. L'objectif pour l'armée est de dissuader les groupes armés et permettre la libre circulation des passagers sur ces tronçons routiers. Des précisions avec Fiston Goma.
Ces mesures sécuritaires ont été recommandées par la société civile et la jeunesse de Kawisi au cours d'une mission d'évaluation conjointe organisée mercredi dernier par la section des affaires civiles de la MONUSCO. 10 personnes comprenant les chefs de village, des membres du comité local de protection, des chefs religieux, des représentants d'agriculteurs et les FARDC ont pris part à cette évaluation. Ces acteurs ont dénoncé la méfiance entre les civils et les acteurs de la sécurité, poussant ce dernier à accuser les jeunes locaux et les chefs coutumiers de soutenir les groupes armés, trompant ainsi les habitants pour qu'ils continuent le partage d'informations. L'absence ou la force insignifiante des troupes de FARDC dans certains points chauds de la RN5 de la plaine de la Ruzizi a également été dénoncée par la population de Kawisi. Les groupes armés locaux et étrangers y opèrent facilement. Le 1er novembre dernier, tous les biens de passagers ont été pillés au cours des embuscades survenues contre les bus des agences de voyage à Muniwema, à 12 km au nord de la ville d'Uvira. La MONUSCO a sensibilisé ses acteurs locaux de renouveler la confiance mutuelle entre la population et les acteurs de la sécurité. Elle a recommandé aux chefs de village d'organiser régulièrement des réunions de sécurité pour maximiser les tendances et informations de sécurité de la zone et les signaler en temps opportun par les voies officielles. D'Uvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
Direction la province du Haut-Katanga. Plusieurs quartiers de la commune Lubumbashi sont dans le noir depuis deux jours. Ceci fait suite à une tentative de vol des câbles électriques par des inciviques. Notez que dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 des 7 personnes qui tentaient de voler les câbles haute tension au village Tumwe dans le territoire de Kipushi sont mortes par électrocution. Jean Gandou nous raconte.
Les quartiers touchés sont entre autres Gambela 1, Gambela 2, Gambela 3, les cités universitaires et autres. D'après les responsables de la SNEL, cette coupure est intervenue lors de la tentative de vol de câbles sur la ligne qui va du répartiteur sud vers le poste Unilum, ce qui a provoqué un court-circuit car les câbles ont touché au pylône. Pour le moment, les agents de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Ceci intervient 48 heures seulement après l'électrocution de plusieurs personnes qui tentaient aussi de voler les câbles haute tension au village Tumbwe dans le territoire de Kipushi. Une personne est décédée sur place. Deux des cinq autres qui étaient grièvement blessés ont succombé au cours de la journée de ce vendredi. Deux de leurs collègues qui n'ont pas été touchés ont pris les larges. Les câbles en cuivre qui sont volés sont vendus dans les usines de fonderie. Pour rappel, dans un passé récent, de nombreux pylônes transportant les câbles haute tension ont été vandalisés sur la route des contournement dans la commune annexe à Lubumbashi, ce qui a perturbé la desserte d'énergie électrique dans plusieurs coins de la ville, mettant aussi à mal les économies de plusieurs entreprises. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Merci de nous recevoir à Guémena dans le sud Ubangi. La société civile environnementale, membre du groupe de travail Climat Raid, se félicite de l'appui de 500 millions de dollars à la RDC comme retombée de la COP26. Mais dans un communiqué de presse publié vendredi, la société civile environnementale demande au gouvernement de négocier l'accroissement de cet appui vu l'important massif forestier que regorge le pays. Le communiqué exige aussi que ces fonds puissent bénéficier réellement à toutes les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Le point avec Paul-Richard Malingela.
La RDC passe pour un pays solution au regard de ces vastes couverts forestiers les mieux conservés, mais aussi de ses efforts d'atténuation des changements climatiques, indique le communiqué de presse du GTC Sud-Ubangi. C'est pourquoi le groupe estime moins consistant l'enveloppe de 500 millions de dollars qui vient d'être allouée à la RDC par la COP26. La structure demande plutôt au gouvernement congolais, encore présent aux travaux à Glasgow en Écosse, à poursuivre ses négociations afin de revoir ce fonds à la hausse. William Welende, coordinateur du GTC Sud-Ubangi.
De la forêt de la RDC. C'est 500 millions de dollars pour le premier tranche. C'est insuffisant. Ça ne correspond même pas à l'état. Parce que nous, là, nous avons de grands massifs forestiers très consistants. En particulier, on a aussi des réserves forestières dans la Sud-Ubangi.
Par ailleurs, le GTCR Sud-Ubangi recommande la transparence et la redevabilité dans la gestion du fonds déjà alloué au profit de toutes les parties prenantes, dont de peuples autochtones. William Welende.
Nous réclamons la répartition par rapport aux provinces doit atteindre réellement les bénéficiaires aux fonds qui sont les pygmées. Parce que souvent les fonds arrivent, même si c'est le moins là, ça ne peut pas atteindre les bénéficiaires finaux qui sont les PA.
À cet effet, la société civile environnementale et le GTCR de Tshidou-Bangui recommandent la mise sur pied d'un mécanisme financier au niveau tant national que provincial. Mbandaka, Paul Chamalingue, la radio Okapi.
Actualité, Afrique monte.
Nous sommes en Afrique du Sud. Une policière sud-africaine condamnée à 6 peines de prison à vie pour avoir tué son petit ami et 5 membres de sa famille. Son objectif, toucher les assurances vie de ses victimes. Rosemary Ndlovu, c'est son nom, 46 ans, a été reconnue coupable le mois dernier d'avoir tué sa cousine, sa sœur, son petit ami, sa nièce, son neveu et un autre proche entre 2012 et 2017 par balle, à coup de matraque ou par étranglement. Le tribunal l'a également déclarée coupable d'avoir tenté de tuer sa mère, sa sœur et les 5 enfants de cette dernière, en plus de 6 peines de prison à vie pour meurtre. Le juge a ajouté 95 ans de prison pour incitation au meurtre, tentative de meurtre et fraude à l'assurance. En pratique, les années d'emprisonnement reviennent à la prison à vie, a déclaré le juge Ramaru Momonama. Une grande partie du procès a été diffusée en direct en Afrique du Sud. Selon l'accusation, elle aurait engrangé quelque 80 000 euros.
L'invité.
Il s'agit de Job Kambale, porte-parole du groupe de réflexion dénommé les chômeurs du Nord Kivu. Après analyse et réflexion, ils émettent leur point de vue par rapport au mouvement de grève des enseignants qui oblige les enfants à rester à la maison. Ce groupe de réflexion encourage les pourparlers de Kisantu ou au Congo central. Pour ses membres, ceux qui troublent et manipulent les enseignants sont identifiés comme hostiles à la gratuité de l'enseignement. Leur porte-parole s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Monsieur Job Kambale, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez émis un point de vue par rapport à la grève des enseignants et le chômage des enfants. Pourquoi vous avez pensé à émettre ce point de vue?
Nous nous sommes réunis et nous avons estimé que la situation scolaire continue à s'empirer de plus en plus. Alors, à notre qualité de citoyens congolais et de jeunes en situation de chômage, nous avons dit que nous devrions émettre notre point de vue par rapport à cette situation-là. Et donc, nous avions suivi depuis le 30 octobre 2021, donc le samedi passé, qu'il y a déjà convention entre les bancs syndicales et le banc gouvernemental en Puella. Et les compromis étaient tels que les enseignants et les enfants doivent reprendre les activités scolaires au même moment que les activités et les pourparlers continueront en Puella. Nous avons applaudi cette position-là et ces compromis. Maintenant, à notre grande surprise, nous avons constaté que les parents ont envoyé les enfants à l'école, mais les enseignants ne sont pas arrivés, c'est ce qui nous a tiqué. Et nous avons fini finalement par comprendre que c'était une manipulation politique, c'était une vraie guerre ouverte contre la gratuité de l'enseignement prônée par ce monsieur le président de la République, chef de l'État.
À votre niveau, quel rapport y a-t-il entre la grève des enseignants et les politiciens?
Nous l'appelons manipulation politique parce que d'aucuns ignorent que c'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir que la gratuité de l'enseignement de base a été mise en application. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à le faire, les détracteurs, ne veulent pas que les régimes réussissent cette gratuité de l'enseignement-là. Et nous avons des preuves, messieurs les journalistes, nous avons fait nos enquêtes, nous ont amené à la conclusion que c'est réellement une manipulation. Et donc, lorsque nous avons conclu, comme jeunes citoyens congolais à notre situation de chômage, nous avons émis un certain nombre d'éléments à tout le monde qui intervient dans le domaine éducatif, que nous soutenons les pourparlers qui se font en Puella entre le banc gouvernemental et le banc syndical des enseignants pour que un compromis définitif pouvant amener à une solution qui pourra pallier aux désidérata des enseignants soit trouvée. Nous soutenons la position, la décision du ministre de l'enseignement, tel que tous les enseignants grévistes, parce que c'est devenu une manipulation politique et une guerre contre la gratuité, tout enseignant gréviste doit être désormais considéré comme déserteur, que leur salaire, tous ces grévistes-là, devront être désactivés et qu'ils devront être remplacés par de nouvelles unités parce qu'il y en a dans le domaine de l'enseignement. Et nous avons applaudi cette position-là parce que de nouvelles écrit, viendront dans nous chômeurs. Et nous, nous sommes prêts à aller travailler dans le domaine de l'éducation pour effectivement sauver l'éducation des enfants.
Vous pensez que donc les enseignants n'ont pas droit à gréver pour revendiquer leurs droits?
C'est pourquoi nous avons dit que les pourparlers devront continuer. Les enseignants sont en plein droit, ils ont droit, mais ils devront aussi respecter la procédure. Après les enquêtes, nous avons dit que ce n'est plus une réclamation dans la droiture parce que ça n'a pas respecté la procédure, ça a devenu autre chose. Sabotage, guerre contre la gratuité de l'enseignement, manipulation politique, et cela nous sommes en train de le dire à cœur ouvert, nous sommes en train de le dire consciemment parce que nous en avons pour cela des preuves.
Alors, c'est quoi le point de vue des chômeurs du Nord Kivu? Ils demandent quoi et aux enseignants et au gouvernement et aux parents des élèves?
Nous demandons au gouvernement de continuer les pourparlers avec les bases syndicales pour qu'une solution durable, qu'on puisse avoir une solution salvatrice. Aux enseignants, qu'ils rentrent à l'école, nous profitons de votre micro pour les supplier de rentrer à l'école. Que s'ils ne veulent pas rentrer, ils soient remplacés par de nouvelles recrues et nous sommes prêts à servir la nation dans le domaine de l'enseignement.
Mais vous avez parlé à peu près 5 points.
L'inspection principale provinciale de l'enseignement devra nous organiser, nous chômeurs qui sommes prêts à aller servir dans le domaine de l'enseignement, des tests d'embauche.
Dernier mot à émettre.
C'est d'appeler les parents et ne pas avoir peur d'envoyer les enfants à l'école la semaine prochaine parce qu'il y a un groupe de citoyens congolais, des gens qui sont animés de la citoyenneté, du civisme, qui ne veulent pas que la situation périsse. Au gouvernement de continuer avec les pourparlers parce que même si nous on viendra servir, il faudra que les conditions de l'enseignant soient telles que ça donne l'honneur d'un enseignant congolais.
Je vous remercie.
Je vous en prie, messieurs les journalistes.
C'était là notre invité, Job Kambale, le porte-parole du groupe de réflexion dénommé Les chômeurs du Nord Kivu. Il s'entretenait avec Mathieu Ilunga. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre attention.